Le cours de microbiologie générale pour les étudiants de deuxième année de licence en sciences biologiques, écologie et environnement, et biotechnologie, préparé par le Dr Y.A.D. Wissem, spécialiste en microbiologie appliquée, au Centre universitaire Abdelhafid Boussouf de Mila pour l'année universitaire 2022 à 2023. Préface: le cours de microbiologie générale s'adresse aux étudiants de deuxième année licence sciences de la nature et de la vie, spécialité sciences biologiques, écologie et environnement, et biotechnologie. Il permet aux étudiants de découvrir le monde microscopique des micro-organismes et de répondre aux multiples questions qu'ils se posent. Comment s'est fait leur découverte? D'où viennent-ils? Y a-t-il que de mauvais micro-organismes? Comment se développent-ils? Comment ils se nourrissent? Comment se fait leur étude? Et bon nombre de questions auxquelles ils trouveront des réponses par ce module. Dans un premier lieu, le cours traite de l'importance des micro-organismes dans le monde vivant. Ensuite, il sera abordé la cellule bactérienne, structure, composition, la nutrition et la croissance bactérienne, les milieux de culture, les types trophiques, les agents antimicrobiens, la classification bactérienne et enfin des notions de mycologie et de virologie. Prérequis base solide en biologie générale, biochimie, génétique et biologie moléculaire. L'étudiant doit avoir aussi une notion globale sur les agents pathogènes. Objectif du cours: il a pour objectif de faire acquérir aux étudiants les connaissances théoriques et pratiques indispensables en microbiologie. Les bases qui seront utilisées dans d'autres parties du tronc commun et dans les modules intégratifs. Structure, génétique, métabolisme et physiologie. Interaction avec les autres composants de la biosphère, biotique et abiotique. Rôle dans l'équilibre écologique de la planète et importance dans les activités humaines. Chapitre 1. Le monde microbien. Introduction: la microbiologie a souvent été définie comme l'étude d'organismes trop petits pour être vus à l'œil nu, c'est-à-dire l'étude des micro-organismes. Un microbe ou un micro-organisme fait partie d'un groupe large et extrêmement diversifié d'organismes. Ces organismes sont regroupés sur la base d'une seule propriété. Ils sont si petits qu'ils ne sont visibles qu'au microscope. Ce mot de micro-organisme est donc utilisé pour désigner les bactéries, les mycètes, champignons, unicellulaires, levures et moisissures, les protozoaires, une certaine algue, ainsi que les virus qui ne sont quant à eux visibles qu'au microscope électronique. Un point historique: pendant très longtemps, les gens crurent à la génération spontanée grâce à laquelle les organismes vivants pouvaient se développer à partir de matières mortes ou en décomposition. Cette opinion fut finalement mise en doute par le médecin italien Francesco Rodi, qui réalisa une série d'expériences sur la production spontanée d'asticots par la viande en décomposition. La découverte des micro-organismes par Anthony van Leeuwenhoek raviva la controverse. C'est le Hollandais qui conçut le microscope le plus simple. Ainsi, il révéla au monde scientifique la prodigieuse diversité des micro-organismes et l'incroyable richesse des milieux naturels, comme l'eau en protozoaires, algues, levures et bactéries. L'essor de la microbiologie au cours de la seconde moitié du XIXe siècle a été déclenché puis dominé par le génie de Louis Pasteur et de l'Allemand Robert Koch. Les travaux de Pasteur jetèrent les bases de la théorie microbienne des maladies infectieuses et apportèrent les clés du contrôle de ces maladies au plan individuel et populationnel par la vaccination. Avec ses avancées méthodologiques, Robert Koch ouvrit la voie à la découverte de la majorité des bactéries pathogènes pour l'homme, grâce à leur isolement et leur culture à partir des prélèvements réalisés chez des sujets souffrant de maladies infectieuses. Sa contribution fut déterminante dans le domaine de l'hygiène et de la santé publique. 1.2. Place des micro-organismes dans le monde vivant. Les micro-organismes sont différents et leur classification a toujours été un défi pour les taxinomistes. Leur description initiale, soit comme plantes, soit comme animaux, était trop simple. Par exemple, certains sont mobiles comme les animaux, mais ont également des parois ou sont photosynthétiques comme les végétaux. La découverte des micro-organismes a rendu difficile leur classement à cause de leur caractère qui ne correspondent ni à l'un ni à l'autre des deux règnes. Un troisième règne, protiste, est alors proposé par Haeckel en 1886. Il rassemble les algues, les protozoaires, les champignons et les bactéries. Les protistes sont caractérisés avant tout par une organisation biologique rudimentaire, unicellulaire ou pluricellulaire. Ils présentent des protistes supérieurs ou eucaryotes qui ont un noyau entouré d'une enveloppe. Leur morphologie est plus complexe et englobe les algues, excepté les algues bleu-vert, les protozoaires et les champignons. Et des protistes inférieurs ou prokaryotes qui ont une morphologie plus simple que les cellules eucaryotes et n'ont pas de noyau, sont les algues bleu-vert ou cyanophycées, bactéries ou schizomycètes. Les archéobactéries, découvertes récemment, qui ont des caractéristiques qui ne ressemblent ni aux eucaryotes ni aux prokaryotes, font l'objet d'une troisième classe des protistes. 1.3. Les protistes sont définis par des propriétés communes et spécifiques. Leur taille microscopique, leur organisation simple et unicellulaire pour la plupart. Si pluricellulaires, alors leurs cellules sont équivalentes, sans aucune différence morphologique, physiologique ou fonctionnelle. Les protistes se distinguent des animaux et des végétaux par leur structure, leur physiologie et leur écologie. 1.3.1 Structure et fonction. Une taille de loin plus réduite que celle des cellules animales et végétales. Les cellules animales et végétales sont incapables d'exister indépendamment de leur organisme. La taille réduite des protistes confère des avantages physiologiques. Un rapport surface-volume supérieur à celui de tous les autres organismes vivants. Ce qui permet des échanges et des interactions remarquables avec le milieu. Sans oublier une dissémination et une distribution dans la nature unique et impressionnante. 1.3.2 Reproduction. Les protistes et en particulier les bactéries ont des modes de reproduction simples, spécifiques et rapides, temps de génération court. Escherichia coli par exemple, se reproduit par simple division binaire en 20 minutes. Cela se produit bien sûr en conditions optimales de culture en laboratoire. Ces taux de croissance exceptionnels induisent des rendements de croissance incomparables. 1.3.3 Métabolisme. Les micro-organismes ont une propriété fondamentale qui est la diversité de leur métabolisme. Chaque micro-organisme est spécifiquement adapté à la métabolisation d'un nombre plus ou moins limité de substrats. Ce qui explique leur distribution en fonction des caractéristiques nutritionnelles et physico-chimiques du milieu. Les micro-organismes peuvent métaboliser toutes les substances organiques naturelles et même synthétiques. Ce processus constitue la minéralisation de la matière vivante et le recyclage des éléments chimiques qui forment la matière organique. Ceci permet de préserver l'environnement. La synthèse d'enzymes inductibles uniquement en présence de leur substrat spécifique. 1.3.4 Écologie. Les micro-organismes sont ubiquitaires, ils sont présents dans tous les écosystèmes. On les retrouve dans les mers et les océans, ils constituent la biomasse, base du premier échelon de la chaîne alimentaire, qui nourrit l'ensemble de la faune marine. Dans le sol, ils jouent un rôle dans la décomposition de la matière organique, la fourniture de l'azote assimilable aux plantes, la minéralisation de la matière organique. Les micro-organismes participent activement aux équilibres gazeux de l'atmosphère, en étant à la fois producteurs et consommateurs d'oxygène, hydrogène, azote, dioxyde de carbone et méthane. Dans le long de l'appareil digestif des animaux, ce dernier est tapissé de bactéries utiles à notre bien-être digestif. Elles nous procurent les enzymes nécessaires à la digestion de certains aliments. De plus, elles évitent que d'autres micro-organismes dangereux colonisent le tube digestif et nous rendent malades. 1.3.5 Organisation biologique des protistes. Les protistes se présentent selon trois types différents d'organisation biologique, unicellulaire, pluricellulaire et cénocytique. A. Protistes unicellulaires, c'est le cas de la plupart des protistes, bactéries, protozoaires, levures et de nombreuses algues. Une cellule unique qui se suffit à elle-même et qui constitue un organisme complet et autonome, donc doué de toutes les fonctions de la vie, nutrition, croissance et reproduction. B. Protistes pluricellulaires, ce sont principalement des champignons et des algues qui sont des organismes formés de plusieurs cellules pluricellulaires ou multicellulaires. Mais dans un même organisme, leurs cellules sont équivalentes et ne montrent pas de différenciation fonctionnelle ou morphologique significative. C. Et protistes cénocytiques des organismes de grande taille, se composent d'un cytoplasme important incluant de nombreux noyaux sans cloisonnement septum entre eux. Ils sont majoritairement aquatiques. C'est principalement le cas des champignons inférieurs et de quelques algues. Ce sont les seuls membres des champignons possédant le caractère de la mobilité. 1.3.6 Types of protists 1.3.6.1 Les protistes supérieurs, eucaryotes, ce sont des micro-organismes qui possèdent un noyau. On distingue trois groupes de protistes eucaryotes, les champignons, les algues et les protozoaires. A. Les champignons ou mycètes sont des eucaryotes et possèdent donc un noyau entouré d'une membrane nucléaire, ainsi que différents types d'organites cytoplasmiques limités par des membranes. Ils sont plus grands que les bactéries et peuvent constituer des assemblages de grande taille. Ils se reproduisent par scissiparité, et leur paroi cellulaire est constituée de chitine et non de peptidoglycane. On distingue deux catégories de mycètes, les moisissures et levures. Les moisissures sont des êtres pluricellulaires qu'on rencontre sur les fruits, le pin. Elles sont formées de filaments appelés hyphes qui, à leur tour, vont donner des mycéliums tâles. Les champignons ont une paroi rigide formée principalement de chitine, différents polysaccharides. Un grand nombre de champignons sont pathogènes pour les végétaux, phytopathogènes. D'autres sont des pathogènes de l'homme et des animaux mais ne causent pas de gros dégâts, exemple mycose digestive. Les levures sont des êtres unicellulaires, exemple Saccharomyces cerevisiae. C'est le micro-organisme le plus utilisé dans le monde grâce à son extraordinaire métabolisme. Ce sont des hétérotrophes qui possèdent une paroi rigide chitineuse. B. Les algues sont des êtres microscopiques, microalgues contrairement aux macroalgues, sont des organismes phototrophes. Elles réalisent la photosynthèse de type végétal, produisent de l'oxygène et peuvent être unicellulaires ou pluricellulaires, sont mobiles ou immobiles, ont une paroi de nature cellulosique et appartiennent à l'écosystème marin, eau douce, eau de mer salée. Les protozoaires sont des protistes supérieurs, constitués d'une cellule similaire à celle de la cellule animale eucaryote. Leurs cellules ne présentent donc pas de paroi. La plupart des protozoaires sont mobiles, cils, flagelles, pseudopodes, prolongements rétractiles du cytoplasme. La classification des protozoaires repose sur des caractères morphologiques et biologiques, mais il est aussi pratique de les séparer en pathogènes des muqueuses et pathogènes des tissus et du sang. 1.3.6.2 Les protistes inférieurs, prokaryotes, ce sont des micro-organismes qui ne possèdent pas de noyau. Ils ne possèdent pas également certains organites tels que l'appareil de Golgi. A. Les bactéries sont des organismes unicellulaires relativement simples dont le matériel génétique, représenté par un seul chromosome circulaire, n'est pas contenu dans une enveloppe nucléaire appelée aussi nucléoïde. B. Les virus sont les plus petits des micro-organismes. Leur taille est de l'ordre de quelques nanomètres, ils ne sont observables qu'au microscope électronique. Ils ne sont pas des organismes vivants. Ce sont des parasites obligatoires de toutes cellules vivantes des animaux, des végétaux et des bactéries. Leur croissance et leur multiplication ne peuvent s'effectuer qu'à l'intérieur d'une cellule vivante, ce qui entraîne en général la destruction de la cellule hôte. Les virus parasites des bactéries sont appelés bactériophages. 1.4. Caractéristiques générales de cellules prokaryotes. Cellules eucaryotes. On distingue en effet la cellule eucaryote caractéristique des plantes et des animaux, des protistes supérieurs et la cellule prokaryote caractéristique des protistes inférieurs et en particulier des bactéries. La cellule eucaryote comprend un vrai noyau entouré d'une enveloppe nucléaire, contenant deux jeux semblables de chromosomes homologues, elle est diploïde. La cellule prokaryote ne possède pas un vrai noyau mais un appareil nucléaire diffus, non isolé par une membrane, avec un seul chromosome, porteur de la grande majorité des informations génétiques de la cellule, elle est haploïde. Les principales différences entre les cellules eucaryotes et prokaryotes sont retrouvées dans le tableau suivant. Caractéristiques eucaryotes, prokaryotes, taille moyenne de la cellule 10 à 100 micromètres, 1 à 10 micromètres, structure, présence d'une membrane nucléaire qui régule les échanges avec le cytoplasme, pas de membrane nucléaire. Le noyau est diffus dans le cytoplasme. Nucléoïde, composition des chromosomes ADN associés aux histones ADN, pas d'histones, mais des protéines qui ressemblent aux histones, histone-like protein ARN. Synthèse de protéines, synthèse d'ARN dans le noyau, synthèse de protéines. Dans le cytoplasme couplé au cytoplasme, ribosome très nombreux libre 80S ou sur les systèmes membranaires internes très nombreux. Libre 70S uniquement autres organites présents, réticulum endoplasmique, mitochondries, appareil de Golgi, lysosome, etc. Absence organites spécialisés, chloroplastes, pas de chloroplastes. Présence de chromatophores ou de systèmes membranaires, mouvement de la cellule flagelle et s'il fait de tubuline, flagelle fait de flagelline. Respiration par des organites spécialisés, mitochondries localisées au niveau de la membrane cytoplasmique, photosynthèse présente chez algues et plantes, cyanobactéries, exemple algues bleu vert et quelques bactéries photosynthétiques, division cellulaire, division binaire de la cellule, mitose, division binaire de la cellule, sissiparité, division nucléaire, mitose, appareil mitotique, amitotique, reproduction sexuée par fusion de deux cellules reproductrices rares. Et très varié. Chapitre 2, la cellule. Bacterian. 2.1 Définition. La cellule bactérienne est un micro-organisme prokaryote unicellulaire simple, de morphologie variable et de très petite taille, présentant des caractéristiques propres. L'absence de noyau, le matériel génétique ADN est libre dans le cytoplasme. Sa taille varie entre 1 et 10 micromètres. La présence d'un seul chromosome circulaire. L'absence des organites sauf les ribosomes. Son mode de reproduction, division simple par sissiparité, il n'y a pas de mitose et de méiose. 2.2 Technique d'observation de la cellule bactérienne. Compte tenu de leur taille de l'ordre du micron, les bactéries sont visualisées au microscope optique sans coloration état frais ou après coloration état coloré. A. Examen direct à l'état frais. Les méthodes fondées sur la technique de l'état frais correspondent à l'observation d'un matériel biologique ou d'une suspension bactérienne entre l'âme et l'amel à l'objectif 40, sans fixation préalable du matériel par la chaleur ou l'alcool. C'est une méthode rapide qui consiste à observer principalement la forme et la mobilité des bactéries. L'état frais est utilisé pour l'observation directe de culture sur l'âme de moisissure, permet la mise en évidence des caractères morphologiques particuliers, if, mycélium, spore. B. Coloration sur frottis. Observation des frottis séchés, fixés et colorés. Les frottis sont observés à l'immersion avec une goutte d'huile spéciale entre l'objectif et la préparation. Cela permet d'obtenir une image plus nette. Diverses techniques de coloration existent, mettant en évidence des affinités tinctoriales différentes telles la coloration au bleu de méthylène permettant de colorer toutes les bactéries, les ribosomes fixant le colorant. Les colorations de Gram et de Ziel-Nielsen permettent la reconnaissance des bactéries pathogènes. Il y a d'autres colorations comme la coloration des inclusions de collagène et d'amidon, la coloration des cils, et la coloration des spores bactériennes, dans laquelle le colorant ne peut pénétrer qu'après un traitement préalable destiné à perméabiliser les enveloppes, la coloration de Mellée. 2.3 Morphologie bactérienne. Lorsqu'on observe des bactéries au microscope optique à partir de prélèvements pathologiques ou d'un milieu de culture, on reconnaît rapidement la forme des cellules, leurs dimensions, enfin les arrangements ou les groupements qu'elles constituent entre elles. Toutes ces informations définissent la morphologie bactérienne et constituent un des critères de reconnaissance et d'identification. La taille des bactéries varie autant que leur forme. En moyenne, la taille se situe entre 1 et 10 micromètres. Les plus petits ont environ 0,3 micromètres de diamètre, quelques membres du genre Mycoplasma, approximativement la taille des plus grands virus, les poxvirus. Les nanobactéries ont un diamètre de 0,2 micromètres de diamètre environ à moins 0,05 micromètres. Certaines bactéries sont vraiment grandes. Certains spiroquettes peuvent atteindre 500 micromètres de longueur. Les formes des bactéries sont extrêmement diverses. Nous en retiendrons trois principales. La forme sphérique ou cocoïde, elle caractérise les coccies. Leur mode de division donne naissance à des groupements typiques, utiles à observer du point de vue diagnostique. La forme cylindrique ou en bâtonnet, on en distingue deux principales. Le bâtonnet droit ou bacille et le bâtonnet incurvé ou vibrion. La première, bacille, caractérise de nombreuses bactéries. Les entérobactéries aux extrémités arrondies, les bacillus beaucoup plus gros et nettement rectangulaires. La deuxième forme cylindrique est celle du vibrion, bacille incurvé en virgule. Les vibrions ne constituent qu'un seul genre réunissant de nombreuses espèces aquatiques et quelques espèces pathogènes pour l'homme, Vibrio cholerae. La forme spiralée ou hélicoïdale, on la rencontre chez un petit groupe de micro-organismes possédant une structure typique. Un corps hélicoïdal est extrêmement allongé. L'association cellulaire une espèce bactérienne peut apparaître sous forme de cellules isolées séparées ou en groupements caractéristiques variables selon les espèces. Association par pair, en amas régulier, en chaînette, par quatre, tétrade. 2.4 Structure de la cellule bactérienne. Les bactéries sont des cellules procaryotes, leur ADN n'étant pas localisé dans un noyau. Beaucoup contiennent des structures circulaires d'ADN extrachromosomiques appelées plasmides. Il n'y a pas d'autres organides dans le cytoplasme que les ribosomes, qui sont de plus petite taille que ceux des cellules eucaryotes. À l'exception des mycoplasmes, les bactéries sont entourées par une paroi complexe, différente selon que la bactérie est à gram positif ou négatif. De nombreuses bactéries possèdent des flagelles, des pilies ou une capsule à l'extérieur de la paroi. Donc, certaines structures sont présentes chez toutes les bactéries, ce sont les éléments constants. D'autres sont retrouvées seulement chez certaines bactéries, ce sont les éléments inconstants ou facultatifs. 2.4.1 La paroi bactérienne, c'est une enveloppe caractéristique de la cellule procaryote. La paroi rigide est un véritable exosquelette qui confère à la cellule sa forme et assure l'intégrité de la bactérie. Elle représente environ 30% du poids total de la bactérie. La partie commune de toutes les parois bactériennes est le peptidoglycane ou muréine. Il est mis en évidence par la coloration de Gram. Donc, la paroi permet la différenciation de deux grands types de bactéries. Les bactéries Gram positif et Gram négatif. 2.4.1.1 Composition chimique de la paroi. L'un des constituants essentiels qui caractérise les parois bactériennes est le peptidoglycane ou la muréine, mucopeptide. Il s'agit d'un hétéropolymère complexe formé de trois éléments différents. Une structure composée d'une alternance de molécules de N-acétylglucosamine et d'acide N-acétylmuramique. Des chaînes latérales peptidiques, composé de 4 acides aminés et attaché à l'acide N-acétylmuramique, un ensemble de ponts interpeptidiques. Chez les bactéries à gram positif, la paroi est constituée presque exclusivement de la couche de peptidoglycane, à laquelle sont associés des polymères d'acide théicoïque. Les bactéries à gram négatif ont une paroi plus complexe. La couche de peptidoglycane est plus fine que celle des gram positifs, et elle est entourée par une membrane externe composée de lipopolysaccharides et de lipoprotéines. La partie lipopolysaccharidique de la paroi des gram négatifs comprend les molécules d'endotoxines, lipida, qui contribuent au pouvoir pathogène bactérien. 2.4.1.2 La coloration de Gram en 1884, le médecin danois Christian Gram a fait la distinction entre deux types de bactéries, les bactéries à Gram positif et les bactéries à Gram négatif. Ceci a été possible après avoir coloré un frottis bactérien comme suit. Recouvrir la lame de violet de gentiane, 1 minute puis rejeter le violet de gentiane. Recouvrir de Lugol, 1 minute puis rejeter le Lugol. Décolorer à l'alcool, la lame étant tenue inclinée. La durée de décoloration à l'alcool est variable selon l'épaisseur du frottis. En pratique, la durée de décoloration est suffisante lorsque ce qui s'écoule en bas de la lame inclinée est devenu clair. Stopper la décoloration par un nouveau lavage à l'eau. Recouvrir la lame de fucsine diluée, 30 secondes à 1 minute, puis laver à l'eau et sécher entre 2 feuilles de papier filtre, puis à la chaleur. Examiner à l'immersion. Les bactéries à gram positif doivent apparaître colorées en violet et les bactéries à gram négatif en rose. 2.4.1.3 Fonction de la paroi. La forme. La paroi confère aux bactéries la forme, qui est un élément essentiel de leur identification. Sa rigidité et sa résistance sont dues à la présence du peptidoglycane. La protection. La paroi cellulaire est nécessaire pour protéger la bactérie contre la destruction par la pression osmotique, car forte concentration en métabolites à l'intérieur de la cellule entraîne l'entrée de l'eau. Perméabilité. La paroi laisse passer de petites molécules comme l'eau, les sels minéraux ou des métabolites simples. Par contre, elle est plus ou moins perméable à certains solvants, exemple l'alcool. Un rôle immunologique par ses propriétés antigéniques grâce aux lipopolysaccharides et aux peptidoglycanes, qui jouent un rôle important dans la défense non spécifique contre l'infection, activation du complément. Permettre la fixation des bacteriophages. Ils reconnaissent des récepteurs localisés sur le peptidoglycane des grammes positifs ou la membrane externe des grammes négatifs. Cette propriété est utilisée pour l'identification de certaines bactéries, c'est la lysotypie. 2.4.2 La membrane cytoplasmique. La membrane plasmique entoure le cytoplasme de la cellule. Elle est le point principal de contact avec l'environnement cellulaire et est ainsi responsable des apports avec le monde extérieur. 2.4.2.1 Composition chimique et structure moléculaire. L'analyse chimique de la membrane plasmique révèle la présence de 3 types de substances. Les protéines, les lipides et les glucides, avec des proportions de 60 à 70% de protéines et 30 à 40% de lipides. La plupart des lipides de la membrane plasmique sont structurellement asymétriques avec un côté polaire et un côté non polaire appelé amphipathique. Cette caractéristique permet aux lipides de former une double couche dont la surface externe est hydrophile tandis que les extrémités hydrophobes sont enfouies à l'intérieur, à l'abri de l'eau. Les protéines existent sous de très nombreuses formes. Protéines intrinsèques ou internes qui traversent complètement les 2 feuillets membranaires et les protéines extrinsèques ou périphériques qui apparaissent sur une des 2 faces du double feuillet. Les glucides, glucose, glucosamine, etc., faiblement représentés, sont quantitativement des constituants mineurs. La membrane plasmique bactérienne possède le même type de structure que celle d'une cellule eucaryote, bicouche phospholipidique, mais avec moins de glucides et dépourvue de stérol comme le cholestérol, à l'exception des mycoplasmes. 2.4.2.2 Fonction de la membrane plasmique. La membrane plasmique assure plusieurs rôles dans la cellule bactérienne. Maintien du cytoplasme et le sépare du milieu extérieur. Sert de barrière perméable sélective, barrière semi-perméable, permettant le passage de molécules lipophiles et empêche le passage des molécules hydrophiles. Possède des systèmes de transport de beaucoup d'éléments incapables de traverser seule la membrane. Nutrition, rejet de déchets, sécrétion. On distingue 2 grands types de transport. Le transport passif se fait dans le sens du gradient de concentration sans exigence d'énergie. Le transport actif se fait en sens inverse du gradient de concentration des molécules, ce qui nécessite l'utilisation d'énergie généralement fournie sous forme d'adénosine triphosphate. Site de beaucoup de processus métaboliques, respiration, photosynthèse, synthèse lipidique et constituant de la paroi. Site de fixation des flagelles. 2.4.3. Le cytoplasme. Le cytoplasme est un hydrogel colloïdal comprenant une phase dispersante constituée par une solution de sels minéraux et de composés solubles de nature lipoprotéique. Une phase dispersée formée de nucléoprotéines et des lipides. Son pH est situé entre 7 et 7,2. En dehors du matériel nucléaire, les principaux éléments constitutifs du cytoplasme sont les ribosomes et les substances de réserve. Parfois, on trouve des vacuoles à gaz. 2.4.3.1. Les ribosomes sont de petites granulations sphériques, de 10 à 30 nanomètres de diamètre, présents en très grand nombre dans le cytoplasme bactérien, environ 18 000 chez Escherichia coli. Cependant, ce sont des éléments très complexes constitués de protéines et d'acides ribonucléiques, ARN. Les ribosomes bactériens comprennent deux sous-unités, 30S et 50S, ils interviennent dans la synthèse des protéines. 2.4.3.2. Les granulations ou substances de réserve. La bactérie peut accumuler des matériaux organiques ou inorganiques constituant généralement des réserves d'énergie. Lorsque ces substances atteignent une taille suffisante, elles forment des granulations, lesquelles sont visibles quelquefois au microscope. En général, chaque groupe de bactéries synthétise une seule catégorie de substances de réserve qui forment des agrégats, parfois de grande taille. Cela peut être des glucides, amidons et glycogènes, des lipides, polyhydroxybutyrate, du polyphosphate, et parfois des minéraux, fer, soufre. 2.4.3.3. Vacuoles à gaz. Ces vésicules remplies de gaz sont rencontrées chez les membres de trois principaux groupes procaryotes photosynthétiques, algues bleu vert, bactéries pourpres et bactéries vertes. En microscope électronique, elles apparaissent de forme cylindrique, entourées d'une membrane à un seul feuillet d'environ 5 nanomètres d'épaisseur. Les vacuoles à gaz permettent à ces micro-organismes d'habitat aquatique de flotter et de remonter à la surface de l'eau. 2.4.4. Le chromosome bactérien. 2.4.4.1. Morphologie et structure. Le chromosome bactérien est constitué d'un filament unique, continu et circulaire, formé d'une double chaîne d'acides désoxyribonucléiques, ADN. Sa masse molaire est de l'ordre de 3 fois 10 puissance 9 dalton et le nombre de paires de bases est de 5 fois 10 puissance 6 environ, échelonné le long de la double hélice. La majorité des bactéries possèdent un chromosome unique, circulaire. Par contre, Vibrio cholerae en possède deux, un grand de 2,9 millions de bases et un petit d'un million de bases. Celui d'Escherichia coli est empaqueté et se trouve dans une région qu'on appelle nucléoïde ou corps nucléaire. Il mesure 1400 micromètres et 300 angstroms d'épaisseur. 2.4.4.2. Composition. L'ADN ou acide désoxyribonucléique est un polymère de poids moléculaire élevé, composé d'unités appelées nucléotides. Un nucléotide est composé d'un phosphate, d'un sucre pentose, désoxyribose, et d'une base purique, adénine ou guanine, ou pyrimidique, cytosine, thymine. Il y a autant de adénine que de thymine et autant de cytosine que de guanine. Par contre, le rapport adénine plus thymine sur guanine plus cytosine, mieux connu sous le nom de coefficient de Chargaff, varie selon les espèces. On l'exprime en pourcentage de guanine plus cytosine. 50% chez Escherichia coli, 60% chez Pseudomonas, 25 à 45% chez Clostridium. 2.4.4.3. Rôle du chromosome. Le chromosome bactérien est doué de propriétés génétiques fondamentales puisqu'il est le vecteur des caractères héréditaires de la bactérie. Le message génétique de l'ADN est transmis sous forme d'ARN messager, transcription, puis exprimée en séquence polypeptidique, traduction, qui formeront les protéines de structure ou les enzymes. 2.4.4.4. Réplication chimique. L'ADN se réplique, c'est-à-dire qu'il se reproduit lui-même. La séquence sur une chaîne détermine automatiquement la séquence sur l'autre chaîne. La réplication est semi-conservative. Chaque chaîne parentale reste associée à la nouvelle chaîne pour qu'elle serve de matrice. La réplication est bidirectionnelle. Des expérimentations ont été conduites par J. Kern avec des cellules d'Escherichia coli dont l'ADN était rendu radioactif par incorporation de thymidine tricier et visualisé par autoradiographie. Il est apparu que la réplication débutait toujours au niveau d'un point unique, dénommé origine, et qu'une région limitée, dénommée fourche de réplication en raison de sa forme en Y, se déplaçait sur la double hélice parentale, les deux brins séparés auxquels elle donnait naissance servant de matrice pour la synthèse du nouveau ADN. Cette dernière s'effectuait toujours dans la direction 5' à 3'. La matrice étant lue dans la direction opposée 3' à 5'. Dans ces conditions, il se posait alors la question de savoir comment les deux nouveaux brins pouvaient être formés simultanément. La réponse a été apportée par Okazaki qui a montré qu'un des nouveaux brins était synthétisé sous la forme de fragments de quelques centaines de nucléotides, dénommés depuis fragments d'Okazaki. Ainsi, un brin dit avancé ou direct, leading strand, était synthétisé de façon continue dans la même direction que le déplacement de la fourche, tandis que l'autre brin, dit retardé, lagging strand, l'était de façon discontinue dans la direction opposée à celle du déplacement de la fourche. La fourche de réplication avait donc une structure asymétrique. 2.4.5. Les plasmides de la cellule bactérienne peut contenir des éléments génétiques extrachromosomiques capables d'autoreproduction que Lederberg en 1952 proposa d'appeler les plasmides pour marquer leur caractère indépendant par rapport aux gènes portés par le chromosome. Les plasmides permettent à la bactérie une meilleure adaptation à son environnement. 2.4.5.1. Structures, ce sont des molécules d'ADN bicaténaires, généralement circulaires, mais il en existe des linéaires. Parfois ils s'intègrent dans le chromosome et on les appelle alors des épisomes. Les plasmides sont généralement de petite taille, de 1000 paires de bases à 400 000 paires de bases, un centième du chromosome bactérien. Ils portent très peu de gènes, moins de 30, 4,2 mégadaltons présents chez Escherichia coli. 2.4.5.2. Réplication. Le plasmide peut se répliquer selon deux modèles. La réplication de type θ, uni ou bidirectionnelle, à partir d'une origine de réplication en utilisant l'équipement enzymatique de la bactérie hôte. Une réplication de type rolling circle ou cercle déroulant. Un brin est coupé par une nucléase. Ce brin va se dérouler autour de l'autre brin dans le sens 5' phosphate et la bactérie va synthétiser un brin complémentaire simultanément aux deux brins parents. 2.4.5.3. Le transfert plasmidique. Les bactéries possèdent la capacité d'acquérir de l'ADN d'autres bactéries par le transfert génétique qui s'effectue par trois mécanismes. La transformation dans laquelle la bactérie absorbe l'ADN libre présent dans l'environnement. La conjugaison où l'ADN est transféré via les pili sexuels d'une bactérie et la transduction où un bactériophage emporte de l'ADN bactérien d'une cellule à une autre. A. La transformation. La transformation est l'absorption par la cellule d'une molécule ou d'un fragment d'ADN nu, présent dans le milieu, et son incorporation dans le chromosome receveur sous une forme héréditairement stable. Dans la transformation naturelle, l'ADN vient d'une bactérie donneuse. Ce processus est aléatoire et toute portion du génome peut être transférée entre bactéries. B. La conjugaison. La conjugaison, c'est un mécanisme de transfert d'ADN par l'intermédiaire d'un plasmide. La majorité des plasmides, mais pas tous, sont transférables. Les bactéries qui contiennent ces plasmides transférables appelées bactéries donneuses et qui reçoivent le plasmide appelé réceptrice. Le transfert par la conjugaison décrit pour les plasmides F ou par les grands plasmides R nécessite que le plasmide contienne toute l'information nécessaire à son propre transfert. On s'appelle plasmide autotransférable, car ils se transmettent d'une cellule à l'autre en utilisant intégralement leur propre machinerie de transfert. C'est la transduction. La transduction est le transfert de gènes bactériens par l'intermédiaire de virus. Les gènes bactériens sont incorporés dans une capside de phage, suite à des erreurs commises durant le cycle biologique du virus. Le virus qui contient ces gènes les injecte alors dans une autre bactérie, complétant le transfert. 2.4.5.4. Propriété. Résistance aux antibiotiques, 90% plasmidique, les 10% restants sont chromosomiques. Résistance aux métaux lourds, mercure, sel de cadmium, bismuth, de plomb, d'antimoine et arsénite. Production de substances à rôle pathogène. L'exemple le plus étudié est rencontré chez les Escherichia coli responsables de diarrhée. Le pouvoir pathogène dans les trois cas est contrôlé par une information génétique portée par un plasmide, codant pour des entérotoxines et des facteurs de colonisation permettant l'attachement des bactéries à la surface de l'intestin, épithélium intestinal. Production de bactériocines. Caractère métabolique. Un grand nombre de caractères biochimiques des bactéries sont d'origine plasmidique. 2.4.6. La capsule 2.4.6.1. Morphologie. De nombreuses bactéries élaborent des substances organiques visqueuses qui entourent leur paroi d'une couche plus ou moins compacte. Lorsque cette couche gélatineuse muqueuse présente une surface externe libre et nettement définie, on a l'habitude, avec Tom Csik, de l'appeler la capsule. Pour mettre en évidence la capsule chez les bactéries, on procède habituellement à la coloration à l'encre de Chine, sur le fond noir de la préparation constituée par un mélange d'encre de Chine et suspension microbienne, la capsule apparaît comme un halo brillant, entourant le corps bactérien. Un deuxième type de technique est la technique immunochimique, dans lequel des anticorps anticapsulaires se fixent sur les antigènes capsulaires. Le complexe antigène-anticorps précipite et augmente l'épaisseur de la capsule qui devient visible au microscope. Cette réaction est appelée réaction de gonflement de la capsule de Neufeld. 2.4.6.2 Composition chimique. La nature des constituants capsulaires est fréquemment polyolosidique chez de nombreuses bactéries à gram négatif, Klebsiella pneumoniae, Escherichia colitipa, Haemophilus influenzae. Pour quelques bacilles à gram positif, Bacillus anthracis, Bacillus megatherium et Bacillus subtili, les substances capsulaires sont des polypeptides constitués d'un seul type d'acide aminé et d'acide déglutamique. 2.4.6.3 Fonction de la capsule. Les bactéries peuvent vivre sans la capsule, mais cette dernière leur confère des avantages grâce à ses rôles de protection contre les ultraviolets, la dessiccation, les agents physiques et chimiques. De virulence, la pathogénicité, elle s'oppose à la phagocytose en diminuant l'adhésion de bactéries aux macrophages. Elle exerce un chimiotactisme négatif sur les leucocytes. Antigénique, les antigènes capsulaires sont responsables de la spécificité sérologique, antigène K. À partir de cette propriété, une classification peut être établie, exemple 70 types sérologiques différents chez Streptococcus pneumoniae. 2.4.7 Les cils et flagelles. La plupart des bactéries mobiles se déplacent grâce à des flagelles, appendices locomoteurs qui s'étendent à l'extérieur de la membrane plasmique et de la paroi cellulaire. Ce sont des structures minces, d'environ 20 nanomètres de diamètre et 15 à 20 micromètres de long. Les flagelles sont tellement fins qu'ils ne peuvent pas être observés au microscope à fond noir, mais peuvent être colorés par des techniques spéciales qui augmentent leur épaisseur, coloration de Rhodes. Technique de la coloration de Rhodes. Préparation du frottis. Utiliser une lame neuve. Laisser couler, sur la main clinée à 45 degrés au-dessus de la cuve à coloration, mettre de l'eau de Javel dans la cuve, 2 gouttes d'une culture en bouillon, culture jeune, 6 à 12 heures, de la souche à étudier. Laisser sécher. Recouvrir la préparation de mordant de Rhodes, préparer extemporanément, pendant 3 minutes. Laver soigneusement à l'eau distillée. Recouvrir de nitrate d'argent ammoniacal, préparer extemporanément, chauffer presque à ébullition, et laisser agir 3 à 5 minutes. Rincer à l'eau distillée. Sécher et observer à l'immersion. 2.4.7.1 Structure. La microscopie électronique à transmission a permis de montrer que le flagelle bactérien est composé de 3 parties, à savoir la partie la plus longue et la plus évidente, le filament qui s'étend depuis la surface cellulaire, un corps basal enfoui dans la cellule, et un segment court et courbe, le crochet, qui relie le filament au corps basal. Le filament est un cylindre creux constitué d'une seule protéine appelée flagelline. Dans le système polaire, le ou les cils sont insérés à 1 ou 2 extrémités de la cellule. La cellule est monotriche si l'on ne rencontre qu'un seul flagelle à l'une de ses extrémités, amphitriche lorsqu'un flagelle émerge à chacun des pôles, lophotriche lorsqu'une touffe de cils apparaît à 1 ou 2 extrémités. Dans le système péritriche, la bactérie porte de très nombreux cils insérés sur tout le pourtour de la cellule. 2.4.7.2 Fonction du flagelle. Le rôle principal des flagelles est la mobilité. Les flagelles possèdent d'autres rôles autres que la mobilité, tels que le chimiotactisme. Le système du chimiotactisme permet à la bactérie de sentir le milieu environnemental, attractif ou répulsif. Enfin, un rôle antigénique est attribué aux flagelles grâce aux flagellines qui sont antigéniques. Les antigènes flagellaires, antigènes H, déterminent différents sérotypes, exemple sérotypage des Salmonella. En présence de l'anticorps correspondant à leur antigène H, les bactéries agglutinent et les bactéries s'immobilisent. La spécificité antigénique repose sur le nombre et la séquence des acides aminés de la flagelline. Fixation des bactériophages. Les flagelles sont le lieu de fixation de certains bactériophages. 2.4.8 Pili ou fin brillé. Beaucoup de bactéries gram-négatives possèdent de courts appendices fins comme des cheveux, qui ne sont pas impliqués dans le mouvement et plus minces que les flagelles. On les appelle pili ou fin brillé. 2.4.8.1 Structure. Bien qu'une cellule puisse être couverte de 1000 fins brillées, on ne les voit qu'au microscope électronique à cause de leur petite taille. Ils apparaissent comme de minces tubes composés de sous-unités protéiques arrangées en hélices et ils ont à peu près 3 à 10 nanomètres de diamètre sur plusieurs micromètres de long. Il s'agit de la polymérisation d'une sous-unité polypeptidique, piline, assemblée à des polypeptides mineurs comme l'adhésine. 2.4.8.2 Fonction. On en distingue 2 catégories, de morphologie et de fonction distinctes, pili commun et pili sexuel. Pili commun, ils sont ténus, courts, rigides et donc cassants et sont distribués autour de la bactérie, jusqu'à plusieurs centaines. Leur présence est en rapport avec les propriétés hémagglutinantes de la bactérie. Ils peuvent attacher spécifiquement des bactéries à la surface de cellules eucaryotes, phase essentielle dans certains pouvoirs pathogènes, Escherichia coli au cours de certaines infections urinaires, Vibrio cholerae sur les entérocytes. Pili sexuels sont des appendices similaires qui se terminent par un renflement. Ils sont souvent plus épais que les fimbriés, peuvent atteindre 20 micromètres de diamètre, mais leur nombre est plus faible, varie d'un à quatre. Ils jouent un rôle essentiel dans la conjugaison bactérienne en intervenant dans la reconnaissance entre bactéries mâles qui sont les seules à en posséder et bactéries femelles. Ainsi, grâce à l'extrémité renflée de ces pili sexuels, ils peuvent fixer certains phages qui injectent leur matériel génétique par le canal de pili. 2.4.9. La spore. Certaines bactéries ont le pouvoir de se transformer en petites unités ovales ou sphériques douées d'une résistance extraordinairement élevée lorsque le milieu s'épuise en éléments nutritifs ou lorsque les conditions physico-chimiques extérieures changent. On les appelle spores ou endospores puisque leur formation est intracellulaire. Les endospores se développent dans les cellules végétatives de quelques genres bactériens, notamment Bacillus et Clostridium. Ce sont toutes des bactéries gram-positifs. D'autres genres sont capables également de sporuler. 2.4.9.1 Morphologie. Les spores sont de petites unités ovales ou sphériques. Elles peuvent déformer ou non le corps bactérien. Leur position dans la cellule est variable, centrale, terminale, subterminale. Elles servent également dans l'identification bactérienne. La spore peut être libre ou non. La recherche de tous. Ces caractères se fait dans un but taxonomique. 2.4.9.2 Structure de la spore. La spore possède une paroi et une membrane plasmique identiques à celle de la cellule végétative. L'enveloppe la plus externe est mince, appelée exosporium. Sous l'exosporium, on trouve le manteau ou la tunique, composé de plusieurs feuillets protéiques. Le cortex est localisé juste sous la tunique. Enfin, le protoplaste ou cœur de la spore contient les ribosomes, le nucléoïde et des enzymes inactives. 2.4.9.3 Phénomène de sporulation. Le phénomène de sporulation est déclenché par les puits.